Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et la France qui fait face à trois incendies majeurs.
En Gironde, où la presqu'île du Cap Ferré est donc en train d'être évacuée par la route et même par la mer, on l'a appris il y a quelques minutes. Dans les Landes, gros feu à Biscarrosse, consigne est donnée ce matin de se réfugier à la plage. Et dans le Var, où le feu dans les montagnes menace encore deux villages. Vous allez entendre aussi dans le journal les réactions au rebondissement trois ans après le meurtre du jeune Thomas à Crépol, la justice qui retient finalement la circonstance aggravante de racisme. Et puis le Tour de France, cette bataille finale donc annoncée pour aujourd'hui et demain dans l'Alpe d'Huez.
Et on part tout de suite en Gironde où la presqu'île du Cap Ferré est en train d'être évacuée.
En raison de l'incendie qui a pris donc avant-hier dans le secteur du Porche, qui a déjà ravagé 4800 hectares de forêt et qui se dirige vers le bassin d'Arcachon, c'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès. Des consignes ont donc été données toute la nuit et la dernière, eh bien, c'est l'évacuation totale du Cap Ferré.
Oui, c'est ça, la presqu'île du Ferré est évacuée depuis le milieu de la nuit avec des premières navettes maritimes, évacuation plutôt ici de dans la nuit du Porge, de Lège, notamment à Lège, où je me trouve ce matin. Un EHPAD a été évacué avec des autocars mis à la disposition des résidents qui sont relogés dans des structures adaptées. Sur la départementale entre la presqu'île et Lège, il y a des files ininterrompues, interminables de voitures, des habitants, des touristes qui sont souvent médusés, sidérés par cette situation absolument incroyable. Le feu progresse ici ce matin et les fumées sont terriblement toxiques. C'est pour ça que depuis quelques minutes, eh bien, j'étais obligé de mettre un masque FFP2 parce que la situation est vraiment très inquiétante ici.
Oui, on l'entend avec vous, Jean-Louis Forquès, en direct donc ce matin de ce département de la Gironde. Alors, il faut bien comprendre que la presqu'île du Cap Ferré, c'est tout au bout du bassin d'Arcachon. Il y a donc cette évacuation en cours par la mer, évacuation maritime, qui vient de commencer avec des navettes qui iront jusqu'à Arcachon. Et puis, il y a une autre évacuation par la route départementale, celle qui fait le tour du bassin. Parmi les gens qui l'empruntent ce matin, il y a Xavier, habitant de Lège-Cap Ferré. Il nous raconte sa nuit et donc l'évacuation en cours.
Dans la nuit, à 1h du matin, on a reçu un message comme quoi tout le monde devait évacuer le Lège pour ne pas gêner le travail des pompiers, en fait, qui ont un seul souci, c'est d'éviter que le feu passe d'est en ouest et traverse une route, et que s'il passe cette route, eh bien, il envahisse les lotissements au cœur de la ville, quoi, du village. La presqu'île de Lège-Cap Ferré a été évacuée depuis la pointe de Lège, et tout ce que vous voyez là, c'est les gens qui quittent la presqu'île aussi vite que possible.
Il y a 20 000 personnes déjà auparavant qui avaient été évacuées dans ce département de Gironde. La ville de Bordeaux a carrément ouvert le parc des expositions pour accueillir les vacanciers. Imagine un film d'horreur même à Lège-Cap Ferré où les flammes se sont propagées hier à l'intérieur du cimetière. Même les pompiers ont dû évacuer leur PC sécurité dans la commune du Porge. Leur porte-parole parle d'ailleurs d'une situation apocalyptique.
Il y a des pompiers qui défendent maison par maison. Évidemment, vous êtes dans la zone. Vous nous appelez au 3216 pour témoigner si vous-même vous êtes en train d'évacuer, si vous êtes en vacances dans cette zone. Apocalyptique, c'est aussi le terme qui est employé un peu plus au sud dans le département des Landes.
Oui, où là, un feu est parti d'un camion en panne sur une route passant au milieu de la forêt près de Biscarrosse. C'était hier dans l'après-midi. Depuis, il y a 2500 hectares qui ont brûlé selon la mairie. Nouveau bilan d'ailleurs qui fait état de 23 000 personnes évacuées dans les Landes. Léonie Guilbeault, vous y êtes en direct sur place pour RMC. Et la consigne ce matin, eh bien, c'est d'aller se réfugier à la plage.
Oui, ici, tous les évacués se regroupent sur la dune dans un restaurant de plage à Biscarrosse. La terrasse est bondée. Les gens continuent d'affluer massivement. Ici, on sert des cafés, des lits de camp ont été installés. Beaucoup sont enroulés dans leur couverture de survie. Oreillers, pyjamas, sacs de fortune, animaux sous le bras, les habitants ont dû évacuer dans l'urgence, comme Alexis et sa famille. Ils ont dû partir du centre de Biscarrosse. Ils figurent parmi les 23 000 personnes évacuées dans les Landes, plongées dans l'inquiétude.
On a mangé ensemble, en plein milieu du repas, les gendarmes sont arrivés pour dire « vous avez 3 minutes pour évacuer, pas une de plus ». Le feu, on n'a pas l'impression qu'il ait l'air très maîtrisé, donc on est inquiet, un peu stressé.
C'est catastrophique, ça fait mal au cœur, on a envie de pleurer, enfin, ça fait mal et je pense que quand on va voir l'étendue des dégâts, ça va être traumatisant.
Les visages inquiets et les yeux fatigués sont tournés maintenant vers le ciel rouge incandescent. Le vent pousse la fumée vers nous dans un panache orangé impressionnant. Le feu n'est pas encore fixé. Les prochaines heures vont être décisives.
On l'entend avec vous, Léonie Guilbeault, ce matin en direct de Biscarrosse pour RMC. C'est le plus gros incendie depuis 36 ans dans ce département des Landes. C'est ce qu'écrit ce matin le journal Sud-Ouest.
Alors, il y a le Sud-Ouest, les pompiers sur plusieurs fronts en même temps. Le Sud-Ouest, on le disait, le bassin d'Arcachon, les Landes. Et puis, il y a toujours le feu dans le Var ce matin.
Oui, feu qui a pris il y a 3 jours dans les montagnes, qui a brûlé 2700 hectares de forêt et qui n'est toujours pas fixé là au moment où on se parle. Il menaçait même dans la soirée les communes de Corins et de Cotignac. Des habitants ont pu regagner leur maison, mais d'autres ont été contraints d'évacuer en raison de plusieurs reprises de feu toute la journée d'hier. Alors face à cette situation, eh bien Emmanuel Macron a demandé hier soir l'activation de ce qu'on appelle un mécanisme de protection civile au sein de l'Union européenne pour obtenir en fait des renforts de la part de nos voisins. C'est déjà acté. La Croatie, la Slovaquie, le Portugal et la République tchèque vont, ces quatre pays-là, nous envoyer eh bien des avions ou des hélicoptères bombardiers d'eau.
Et on y revient bien sûr tout au long de la matinale avec nos équipes sur place, avec vos témoignages au 32-16 si vous êtes dans ces zones touchées, si vous êtes évacué ou si vous êtes vous-même pompier ou proche de pompier, vous nous appelez 32-16. On lit vos messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il est 7h06 sur RMC et les réactions après le rebondissement dans l'affaire du meurtre de Crépol.
Vous vous souvenez de la mort du jeune Thomas en 2023 dans la Drôme. La justice vient de requalifier, c'est le rebondissement, les chefs d'accusation à l'encontre des 14 jeunes mis en cause. La circonstance aggravante de racisme, je cite, contre la race blanche et la nation française est désormais retenue. Quelles sont les réactions ce matin, Constance Bostoen ?
Exceptionnel et satisfaisant, ce sont les mots utilisés par maître Denis Dreyfus au micro de BFM TV. Il représente l'association des victimes du bal de Crépol.
On a présenté des observations, des propos racistes, à savoir on est là pour tuer du blanc, ont été tenus, ont été entendus par 16 personnes qui dans la procédure ont déposé en sens et qu'on ne pouvait pas écarter ces éléments.
Pourtant, malgré ces témoignages recueillis dès les premières heures qui ont suivi la rixe, le parquet avait renvoyé en juin dernier 11 des 14 suspects devant la cour d'assises, sans retenir le caractère raciste. La requalification opérée par la juge d'instruction sidère donc maître Élise Réjaco, l'avocate de 3 mises en cause.
Qu'il y ait des témoignages qui pouvaient parler que des propos à caractère anti-blanc aient pu être proférés, on le savait dès les premiers jours. Un témoignage humain, il est par nature, il est subjectif. Il peut aussi être empreint de mensonges. Il n'a de force probante suffisante que s'il est matérialisé et caractérisé par d'autres éléments et par des éléments notamment matériels.
Elle assure qu'elle utilisera tous les moyens procéduraux à sa disposition pour contester cette mise en examen.
Bon, il y a cette mauvaise nouvelle ce matin pour le pouvoir d'achat, c'est le prix du baril de pétrole qui, ça y est, repasse la barre des 100 dollars sur les marchés financiers en raison de la situation au Moyen-Orient où les frappes ont repris depuis bientôt 2 semaines. Et ça en plein cœur de l'été avant un nouveau week-end de départ en vacances. Tiens, ce vendredi, classé orange au niveau national, rouge pour le sud-ouest et pour le nord-est.
Il est 7h08 sur RMC et le Tour de France s'attaque au mythique col de l'Alpe d'Huez aujourd'hui.
Oui, ça fait 4 ans que le Tour de France n'est pas passé par l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. On aura même double dose puisque les coureurs vont y arriver une fois aujourd'hui et une deuxième fois demain. C'est un programme dantesque. Aujourd'hui, il y aura encore 3500 mètres de dénivelé positif au départ de Gap. C'est énorme en fin de troisième semaine, Romain Asselin.
Il n'y a qu'à voir la mine de certains à l'arrivée des étapes.
C'est de la survie, c'est mentalement, il faut être très fort.
Directeur sportif chez Astana, Yvon Le Danois trouve les coureurs bien plus épuisés que d'habitude à ce stade de la course.
Il y en a déjà 85% qui le sont, pour pas dire 95%, donc, ou voire même 100%.
Benjamin Thomas le constate en montagne, dans le groupe Eto à l'arrière de la course.
Des fois, on est 90, 100 coureurs, c'est du jamais vu. On voit beaucoup de coureurs malades, et là, le moindre petit virus, le moindre petit rhume, ça peut vite t'amener à la maison. Derrière, tout le monde est cuit, quoi. C'est un peu atypique, mais ça vient du fait que les débuts de course sont de plus en plus intenses.
Plus de 44 km/h de moyenne depuis début juillet. Le peloton est sur les bases du Tour de France le plus rapide de l'histoire. Et une chaleur qui dure. Kevin Vauclin était lessivé hier à l'arrivée.
Sensation de merde. J'avais mal à la tête et tout, là. C'était horrible. Je me suis vraiment battu avec moi-même. J'ai vraiment envie de faire belle figure à Paris. Mais bon, avant de parler de Paris, il faut que j'aille être.
Car il reste 2 ascensions de l'Alpe d'Huez à surmonter d'ici dimanche pour le peloton et Alex Baudin.
On commence à être tous morts, donc on verra ce qui reste pour les 2 derniers jours, mais ça va être dur.
La souffrance.
Le prix à payer pour rallier les Champs-Élysées.
Oui, alors on se demande aussi ce qui se passe chez UAE, l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, puisqu'elle montre des signes de faiblesse depuis 48 heures. Avant-hier, c'est les coéquipiers de Pogacar qui étaient mal en point. Hier, un autre a abandonné en raison d'un état grippal. Les favoris hier ne se sont pas attaqués dans la montée vers Orcières-Merlette, où c'est l'équatorien Richard Carapaz qui a levé les bras et remporté l'étape.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC, RMC Story, il est 7h10 et on part tout de suite au 32-16. C'est Florian qui est avec nous en direct. Bonjour Florian.
Bonjour.
Vous nous appelez des Côtes d'Armor, Florian, et je vois que votre frère est pompier, c'est ça ?
Exactement, oui. Pompier professionnel, il fait partie du 10-53 et il fait partie d'une colonne nord-ouest et là, il est actuellement, oui, devant les flammes.
En Gironde ?
Oui, en Gironde, oui.
Il a été appelé en renfort et envoyé là-bas ?
Exactement, oui.
Est-ce que vous avez pu avoir de ces nouvelles ? Il y est depuis quand ?
Il y est depuis maintenant 3 jours. Et oui, j'ai de ces nouvelles assez régulièrement. Bah là, pas plus tard que ce matin, ils sont en train de défendre une maison avec des feux de cime, qui m'a dit. Et c'est des feux de 20 mètres de haut, quoi.
C'est-à-dire qu'ils vous racontent que des flammes de 20 mètres, là, sont très, très proches des maisons, quoi.
Ouais. Ah oui, complètement, oui.
Il y a des maisons qui ont brûlé ?
Oui. Bah hier ou dans la nuit de il y a 2 jours, ils devaient défendre un quartier qu'ils ont réussi à défendre. Le vent a tourné et les maisons qu'ils défendaient la nuit ont brûlé le matin.
Ouais. Ça doit être excessivement difficile. 3 jours dans cet enfer des flammes. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Est-ce qu'il a encore est-ce qu'il arrive à je sais pas à se reposer un petit peu ? Donc est-ce qu'ils ont encore l'énergie les pompiers de se défendre là ?
Ils sont fatigués. Maintenant, c'est leur métier, c'est leur mission. Et ils font coûte que coûte tout ce qu'ils doivent accomplir. Mais la fatigue physique est bien là. Ouais.
Vous l'avez senti inquiet là ces dernières heures, dans les dernières nouvelles que vous avez eues ?
Pas inquiet, mais plus dans le sens pas beau. Enfin, pour combattre, ils ont pas beaucoup de. Enfin, la nuit, ça avance vite le feu, quoi.
Oui, parce que ce qu'on va redire, c'est que la nuit, les moyens aériens, les Canadair, tous les bombardiers d'eau ne peuvent pas voler la nuit. Pour autant, le vent a continué cette nuit et semble-t-il, le vent a beaucoup avancé cette nuit.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et ça, c'est des milliers d'hectares à chaque fois qui ont une journée qui sont pris et ça avance vraiment très vite, oui.
Et les maisons sont menacées, c'est ce qu'il vous raconte ce matin. Merci beaucoup pour votre témoignage, Florian. Évidemment, le 32-16 reste ouvert si vous êtes dans cette zone, en Gironde, dans les Landes, dans le Var aussi, où on n'oublie pas le Sud-Est, où ça brûle encore aussi. La situation la plus alarmante, c'est le Cap Ferret. Ce matin, on vous le disait dans le journal, la presqu'île du Cap Ferret, très touristique, remplie de vacanciers en ce moment, est en train d'être évacuée, y compris par la mer, avec des navettes qui viennent chercher les habitants et les vacanciers. On y revient tout au long de la matinale. Il est 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on revient sur l'annonce de la ministre de la Santé. C'était hier matin sur RMC, le gouvernement qui a décidé de doubler le plafond des franchises médicales. On pourra payer jusqu'à 200 euros par an. Il y avait un maximum de 100 euros par an jusqu'à présent de soins, de médicaments non remboursés. Les patients atteints de maladies de longue durée ne seront pas exemptés. Ils devront aussi payer plus, mesure injuste et même inefficace. C'est le parti pris ce matin de Bastien Roux. Il préside la Fédération française des diabétiques, des malades qui seront particulièrement touchés. Son parti pris dans un instant en direct. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes sur RMC et il est 7h16. C'était hier matin dans Apolline Matin. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonçait sur RMC sa décision, la décision du gouvernement de doubler le plafond des franchises médicales, la participation forfaitaire que nous payons lorsque nous achetons une boîte de médicaments ou lorsque nous allons chez le médecin. Le plafond jusque-là était à 100 euros par an. Il va passer à 200 euros par an, une mesure qui doit rapporter 750 millions d'euros à l'assurance maladie. Bonjour Bastien Roux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous présidez la Fédération française des diabétiques, les patients
alors,
qui souffrent.
Je suis le directeur.
Directeur de la Fédération française des diabétiques. Pardon. Donc des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui ne seront pas exemptés de ces franchises, qui ne le sont pas aujourd'hui, qui ne le seront toujours pas et qui vont devoir payer eux aussi jusqu'à 200 euros par an. Comment vous avez réagi à cette annonce ?
Plutôt mal, parce que pour nous, c'est en fait on est vraiment contre. On en a déjà discuté plusieurs fois. Sur le fond, c'est vraiment injuste et inefficace. Et sur la forme, on considère que c'est vraiment c'est un passage en force.
Pour vous, sont les plus fragiles qui vont en gros être mis le plus à contribution pour combler les déficits.
Alors, Oui, on peut dire que ce sont les plus fragiles qui sont mis les plus durement à contribution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui se posent de moyens modestes, hein, qui sont en vulnérabilité sociale, c'est les personnes qui sont les plus à risque de développer des maladies chroniques. À titre d'exemple, une personne qui a des revenus modestes a 3 fois plus de probabilité de développer un diabète de type 2 et 3 fois plus de probabilité de développer des complications liées à ce diabète. Donc on sent qu'ils sont déjà impactés par une santé plus précaire. Et de ce fait, si vous leur demandez un effort supplémentaire pour payer leur santé, ça va représenter un effort vraiment considérable.
Pour vous, c'est des gens qui risquent tout simplement de renoncer aux soins à cause de ça ?
Absolument. Nous, c'est un risque très important. Il y a des études qui ont été faites par France Asso Santé sur le reste à charge. Et des personnes qui ont des revenus modestes ont plus de 50% de risque de renoncer à des soins. Pour des personnes qui ont des revenus inférieurs à 2000 euros, ce pourcentage passe à 70%.
Alors le gouvernement insiste sur le fait qu'il y a quand même 18 millions de Français qui sont exemptés de ces franchises, et notamment les personnes très modestes qui ont la complémentaire santé solidaire, qui eux ne payent pas ces franchises. Les très modestes ne les payent
oui,
pas.
Oui, absolument.
Victor, il y a des messages sur... restez bien avec nous, Monsieur Roux. On va juste lire quelques messages de nos auditeurs sur le WhatsApp RMC.
Et notamment Thierry qui est très en colère. Il nous dit « Mon fils est en ALD, affection longue durée. Alors déjà, moralement, c'est compliqué. Et maintenant, nous dit-il, pour faire des économies, il va falloir encore plus mettre la main au porte-monnaie. » Il nous écrit « Moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien faire des efforts. Mais quand je vois que beaucoup de personnes surconsomment avec leur carte vitale, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment à moi de priver de soins mon fils ?»
Oui, parce qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est ça, Bastien Roux. C'est le gouvernement qui tente d'endiguer la surconsommation de médicaments. La ministre disait hier, on a trop de médicaments dans nos placards, on peut faire un petit effort, essayer de ne pas racheter systématiquement des boîtes.
Mais ces médicaments, quand on est atteint de maladies chroniques, diabète de type 2, on choisit de les avoir ou on nous les prescrit ? On les prend pour le plaisir ou pour rester en bonne santé ? C'est là où on dit que, en plus d'être injuste, c'est inefficace. C'est inefficace parce que un patient, il est pas maître de sa consommation de soins. Quand il va chez le médecin, c'est pas pour le fun, c'est pour rester en bonne santé.
Pour vous, on se trompe de cible.
Le diabète. Non seulement on se trompe de cible, mais si vous voulez parler uniquement en termes de coûts, si on veut avoir une approche. On aime bien les approches comptables, donc on peut pas de problème. Un diabète équilibré, au début, c'est 300 euros. Un diabète non équilibré, donc avec des complications, c'est 30 000 euros. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les personnes soient en bonne santé pour que ça ne coûte pas trop cher, ou on veut que les personnes ne soient pas en bonne santé pour que ça nous coûte... 100 fois plus cher.
On risque de dépenser davantage encore in fine. Merci beaucoup ce matin d'avoir été avec nous. Bastien Roux, président de la Fédération française des diabétiques. Mesure injuste et inefficace. C'était votre parti pris ce matin. Il est 7h21 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et puis l'économie avec Manu Le Chypre. Manu, bonne nouvelle, le fisc va nous rendre un peu d'argent.
Alors, pas à tout le monde, mais quand même, presque un contribuable.
J'ai cru qu'on avait vraiment une bonne nouvelle.
Alors, plus de 1000 euros pour ceux qui auront la chance de toucher ce reliquat d'impôt.
Allez, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure de l'économie.
RMC,
le chiffre du jour.
Avec Emmanuel, le chiffre du jour, c'est 1057 euros. C'est le montant moyen du remboursement d'impôts dont vont bénéficier les Français. Enfin, pas tous, mais...
Oui, voilà. Là, faut pas s'emballer, effectivement. Vendu comme ça, bon, vous comprenez bien, il y avait un petit effet teasing. Mais malheureusement, alors quand je dis, bon, malheureusement, ce sera quand même 12,6 millions de contribuables. Ça fait quand même un foyer fiscal sur trois. Donc vous avez quand même plus de chances de toucher un remboursement que de gagner au loto. Alors ils vont recevoir ces 12,6 millions de contribuables, effectivement, un remboursement d'impôt de la part du fisc à partir de ce vendredi 24 juillet. Et le montant moyen, ce sera 1057 euros. Alors qui est concerné? Eh bien tous les contribuables dont l'impôt 2025 qui avait été prélevé en 2025 à la source. Vous savez, en 2025, vous avez payé tous les mois finalement votre impôt à la source. Mais ça, c'était basé sur finalement les revenus que vous aviez gagnés en 2024. Le vrai impôt que vous devez en 2025, c'est celui qui résulte de la déclaration d'impôt que vous avez fait là au cours des dernières semaines. Et donc, c'est ce décalage qui fait que entre ce que vous aviez payé sur la base de l'estimation et ce que vous devez réellement, il y en a qui ont sans doute payé trop d'impôts en 2025 par rapport à ce qu'ils auraient dû. C'est eux qui vont toucher ce reliquat d'impôt. Et puis ceux qui ont déclaré comme il fallait, voire déclaré pas assez, eux seront rattrapés plus tard, ou bien personne ne touchera rien.
D'où vient cet écart?
Alors, cet écart qui fait que, évidemment, vous avez trop déclaré d'impôts, ça peut être lié d'abord à la baisse de votre revenu, si vous avez perdu, par exemple, votre emploi, si votre situation familiale a changé, vous avez divorcé, ou au contraire, vous avez enregistré une naissance, là, c'est pareil, le calcul de votre impôt est modifié. Vous êtes propriétaire, par exemple, vous aviez un locataire, mais ce locataire est parti, a quitté le logement, vous ne l'avez pas remplacé, vous avez subi une baisse de revenus. Vous avez peut-être aussi fait des placements qui donnent lieu à des déductions fiscales. On pense au plan d'épargne retraite, par exemple. Et puis, le cas le plus fréquent, c'est quand même le recours à des prestations qui donnent droit à des crédits d'impôt après la précédente déclaration d'impôt. Donc si par exemple en cours d'année vous avez embauché un salarié à domicile, engagé des frais de garde de jeune enfant ou réalisé un investissement locatif, vous êtes dans cette catégorie de Français qui va toucher un remboursement d'impôt. Alors aucune démarche de votre part n'est nécessaire. Si le fisc connaît vos coordonnées bancaires, eh bien, vous recevrez directement un virement sur votre compte.
Et ce sera peut-être une bonne surprise à découvrir sur son compte aujourd'hui, hein. Ça tombe aujourd'hui.
Ça commence aujourd'hui.
Emmanuel Lechypre, on se retrouve tout à l'heure. Après le journal de 8h, on parlera du coût économique des incendies. Et ça n'est que le début. On le voit bien dans un instant. Justement, on va revenir sur tout ça. La météo qu'on surveille, bien sûr, de très près. Et puis la situation en Gironde et dans les ce matin, c'est la presqu'île du Cap Ferret qui est en train d'être évacuée, y compris avec des navettes maritimes. On évacue par l'eau l'ensemble. Ce sont des milliers de vacanciers, cette presqu'île du Cap Ferret. C'est les bords du bassin d'Arcachon. C'est évidemment extrêmement fréquenté l'été. Le feu a passé la ligne que défendaient les pompiers. On sait que la nuit, les moyens aériens ne peuvent pas voler. Situation cauchemardesque dans ce département de la Gironde, avec donc de très nombreuses évacuations. Il y a aussi des milliers d'évacués du côté de Biscarrosse, où on a demandé aux gens d'aller sur la plage Biscarrosse dans les Landes, où c'est un autre incendie qui a brûlé plus de 2000 hectares. On sera évidemment sur place tout au long de la matinale et vous témoignez. On vous attend au 32-16. On lit tous vos messages, vos témoignages, si vous êtes en train d'être évacué ou si vous êtes dans cette zone-là. Vous témoignez sur le WhatsApp RMC, c'est 06 12 424 424. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite, un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le Cap Ferret en Gironde, Biscarrosse dans les Landes, plongé dans la peur face aux flammes. Des incendies qualifiés d'apocalyptiques par les pompiers ont déjà brûlé des milliers d'hectares et provoqué des évacuations en masse. Évacuation ce matin de la presqu'île du Cap Ferret par la route et par la mer. Le geste héroïque d'un homme de 19 ans à Lens. Il pourrait bien avoir sauvé la vie d'un bébé de 3 ans et sa mère. Ils sont dans un état critique ce matin après l'immolation d'un père de famille. C'est le rendez-vous que tous les passionnés attendaient. L'Alpe d'Huez accueille les deux étapes les plus décisives de ce Tour de France.
C'est une nuit d'angoisse que les habitants et les vacanciers viennent de passer au nord du bassin d'Arcachon, en Gironde.
Ouais, c'est un incendie d'une violence exceptionnelle qui frappe ce secteur. Des images impressionnantes, un mur de flammes qui dévaste tout. Plus de 4800 hectares brûlés, près de 20 000 personnes ont dû fuir leur habitation et leur lieu de vacances. Et Lucas Laubert, toute la presqu'île du Cap Ferret est en cours d'évacuation.
Oui, évacuation par la terre et par la mer. Cela fait 30 minutes que des navettes maritimes ont commencé des rotations pour tous ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. Embarquement depuis quatre jetées de la presqu'île direction le port d'Arcachon. Des bus font également la navette depuis la pointe du Cap Ferret vers ses lieux d'embarcation. Toute la presqu'île est évacuée suivant un plan d'évacuation minutieux élaboré après les incendies exceptionnels de 2022 en Gironde. C'est la première fois qu'il est mis en œuvre. C'est totalement inédit. En parallèle des évacuations par voie maritime, les personnes qui le peuvent doivent immédiatement quitter les lieux en empruntant la route départementale vers le nord du bassin. La mairie de Lège-Cap-Ferret le martèle, cette évacuation n'est pas temporaire car le feu avance. Cette nuit, les flammes ont franchi la ligne d'appui mise en œuvre par les pompiers pour tenter de freiner sa propagation, indique la préfecture de Gironde dans son dernier communiqué.
Lucas Laubert, et c'est un débroussaillage qui aurait provoqué une étincelle et déclenché cet incendie. Et Marion Gauthier, un prestataire d'Enedis, pour être impliqué.
C'est en tout cas ce que raconte à l'AFP une propriétaire à Somos où s'est déclaré l'incendie. Sa maison entourée de pinèdes, elle rentre chez elle, voit un tracteur, deux salariés catastrophés. Ils étaient là apparemment, dit-elle, pour des travaux de débroussaillage pour le compte d'Enedis. Ils auraient vu le feu partir juste après le passage du tracteur de leur collègue. Enedis ne peut pas dire s'ils sont la cause de l'incendie. Le groupe insiste, ses prestataires ont vu un départ de feu. Ils ont immédiatement alerté les secours et utilisé les extincteurs dans leur véhicule pour contenir les flammes. Et le débroussaillage près de lignes électriques est obligatoire, souligne encore le fournisseur d'énergie. Quelques heures après le départ de ce feu, la préfecture de Gironde interdisait tous les travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques jusqu'à la fin de la vigilance rouge incendie.
Alors il y a cet incendie en Gironde et puis il y a ces évacuations également à Biscarrosse, là on est dans les Landes.
23 000 personnes ont dû fuir leur domicile ces dernières heures. L'incendie parti d'un camion en panne qui a pris feu hier a déjà parcouru plus de 2500 hectares. Les pompiers parlent d'une situation dantesque, un feu incontrôlable. La situation ne s'améliore pas en raison des vents tournants et de la sécheresse. Panique, angoisse pour les habitants, touristes, notamment Sofiane et sa famille qui ont dû fuir leur maison qui a été ravagée par les flammes.
On a vu, nous, le feu, et directement, on a pris les voitures, on est parti. Et là, on se retrouve à ne pas dormir, et à 6h du matin, aller juste demander un peu d'eau aux commerçants du coin. Et il y a des milliers d'habitants, des vies brisées, là, on n'a plus rien. On a réussi à sauver l'argent et les papiers. Moi, je ne dors pas, ma famille, elle ne dort pas. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'arrive même pas à respirer la nuit. Ça nous prend direct dans le thorax, ça nous fait mal, ça nous brûle. On croit, on suffoque.
Et la France appelle l'Europe à la rescousse face à ces incendies hors normes de ces dernières heures. Emmanuel Macron a demandé à Antoine Audion l'activation du mécanisme européen de protection civile.
Oui, la France va pouvoir compter rapidement, selon le président de la République, sur deux Canadair croates, deux avions Air Tractor portugais. Ils peuvent larguer environ 3000 litres d'eau et deux hélicoptères lourds en provenance de Tchéquie et de Slovaquie, des Black Hawk bombardiers d'eau. Tous ces renforts, ils sont déployés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Il existe depuis 2001 et il permet aux pays membres et à 10 autres pays partenaires de demander des renforts en cas de catastrophe. Depuis le début de la saison des feux de forêt, la France l'a déjà activé à plusieurs reprises dans les Pyrénées-Orientales ou dans la Drôme, par exemple. À l'échelle européenne, cet été, 22 avions et 5 hélicoptères sont mobilisables pour aider les pays confrontés à des incendies et qui en font la demande.
Et l'incendie dans le secteur de Cotignac, dans le Var, toujours pas fixé. 2700 hectares parcourus par les flammes depuis mardi et de nombreuses reprises de feu hier. Mais la situation devrait s'améliorer dans les prochaines heures. Le Mistral devrait faiblir. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, lui suit attentivement la situation et va se rendre dans une heure au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises de Beauvau. Une prise de parole est prévue à l'issue de cette réunion.
Il est 7h35 sur RMC. On en vient à ce drame familial à Lens.
Un père de 37 ans est mort après s'être immolé. Il aurait jeté du liquide inflammable sur sa compagne et leur bébé de 3 mois. Et ont été grièvement brûlés et sont toujours dans un état critique ce matin. Et Victor Girard, un homme de 19 ans pourrait bien avoir sauvé la vie du nourrisson.
Almenzo rentre de la salle de sport lorsqu'il aperçoit une épaisse fumée noire s'échapper d'une maison.
Devant l'habitation, une femme méconnaissable est en pleurs.
Son corps était rempli de suie, rempli de brûlés. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et elle me dit mon bébé est à l'intérieur. Donc j'ai ouvert la porte avec la force que je pouvais.
Le jeune homme s'engouffre alors dans la maison en flammes à la recherche du nourrisson. Il fouille les pièces jusqu'à atteindre le salon.
Je tremblais et tout, j'avais un peu peur. Et en fait, le bébé était au niveau du canapé.
Almenzo n'hésite pas une seconde.
Je l'ai porté, son dos est resté collé par terre. Donc ça m'a fait un choc mental.
Et réalise un massage cardiaque sur le bébé inconscient.
Dès que j'ai entendu le bébé pleurer, j'ai l'impression à la relâcher. Donc j'ai pleuré aussi. Et après, on a laissé les pompiers finir.
Des pompiers qui prennent immédiatement en charge le nourrisson et sa mère, transférés en urgence à l'hôpital. Almenzo, toujours marqué par la scène, estime qu'il a fait ce qu'il devait faire.
La police, surtout, m'ont dit que c'était un acte héroïque. On devrait plus avoir une mentalité comme la mienne sans me jeter de fleurs. Quand on voit quelqu'un de blessé ou quelqu'un comme ça, on évite de le regarder ou le filmer et aller l'aider. C'est plus logique dans mon sens, on va dire ça comme ça.
Une enquête pour tentative d'homicide par conjoint et homicide sur mineur de 15 ans a été ouverte par le parquet de Béthune.
7h36 sur RMC, place au Grand Col sur le Tour de France.
Deux jours, deux arrivées à l'Alpe d'Huez et Kevin Morand. Les favoris n'ont plus le choix, il faut attaquer sous peine de voir le maillot jaune s'envoler.
Oui, pour la 33e fois de l'histoire du Tour, l'Alpe d'Huez accueillera une arrivée à l'issue de ses mythiques 21 virages à l'ambiance survoltée. Une découverte pour Alex Baudin.
On m'a dit que c'était vraiment un truc à part, l'Alpe d'Huez pendant le Tour. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça.
Et il aura droit à une double dose avec une arrivée demain toujours à l'Alpe d'Huez.
Bon, une seule fois, ça aurait suffi, je pense. Mais de le prendre d'un autre côté aussi, de le faire deux fois, c'est une chance.
Demain, les coureurs n'emprunteront que la fin de cette montée. Mais aujourd'hui, ce sont bien les 13 km 800 à 8% de moyenne qui sont au programme. Une arrivée qui fait rêver Valentin Paré. Peintre.
C'est une montée mythique, beaucoup de grands champions sont imposés là-bas, donc c'est toujours quelque chose d'être là-bas avec le Tour et j'espère être à l'avant sur une des deux, pourquoi pas se battre pour la victoire, on verra. C'est sûr, j'ai gagné au Mont Ventoux l'an passé et ça serait joli de gagner à l'Alpe d'Huez cette année. Ouais.
Pour Paul Sexas, quatrième du classement général et en course pour le podium, il y a aussi une part d'appréhension avant cette première ascension de l'Alpe d'Huez.
C'est sûr que c'est incroyable, après j'espère surtout de ne pas tomber dans la montée parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de spectateurs et on a vu que c'était quand même assez dangereux. Après forcément c'est les jambes qui vont parler.
1000 spectateurs au moins sont attendus aujourd'hui, rien que dans la montée de l'Alpe d'Huez.
Et c'est bien sûr à suivre dès 14h sur RMC.
Les courses, c'est sur l'hippodrome de Cabourg ce soir à 20h15.
Le pronostic de Mathieu Zaccagnini, son favori, le 7 Kéops Bégonia, son outsider, et le 11 Kenor des Bois.
Et on continue, merci, c'était le journal de Clément Gouiz sur RMC, 7h38. On continue de vous écouter au 32-16, vos témoignages si vous êtes dans les zones évacuées, les zones menacées par les incendies. On lit vos messages aussi sur le WhatsApp RMC, Victor.
Alors on a d'abord Christian Duvar qui nous dit qu'il a une pensée pour sa tante et son oncle qui vit à la Teste de Buch. Il nous dit aussi, Christian, depuis des années, le bassin d'Arcachon est ravagé par des feux dévastateurs et il appelle à retrouver au plus vite les responsables. On a aussi Thierry qui nous dit on s'est ému, il parle notamment des politiques pour la forêt de Fontainebleau, que dire désormais à ceux du Var et du Sud-Ouest. Et puis on a Mickaël qui nous dit je suis bûcheron, je suis un ancien pompier, j'aimerais être mobilisé si je peux aider, si on peut couper aux alentours pour éviter que ça ne brûle. Il aimerait être mobilisé si jamais il pouvait apporter son aide.
Voilà, vous continuez de nous écrire sur le 06 12 424 424, c'est sur WhatsApp, et vous nous appelez pour témoigner au 32 16, 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et un pompier sera avec nous dans un instant. Également le maire de la commune d'Arez qui est juste à côté de Lèche-Cap-Ferré alors que cette évacuation est en cours. Deux invités pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain, la situation pour les pompiers. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire face? Ça fait aussi partie des questions alors que des renforts sont attendus, on vous le disait, grâce à nos voisins européens. A tout de suite sur RMC et RMC Store.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Plus de 6400 hectares brûlés en Gironde, 2500 du côté des Langues. Les pompiers viennent de passer une nouvelle nuit dans l'enfer des flammes. Et nous retournons sur place en direct ce matin, tout près du Cap Ferré, Presqu'île, qui est en train d'être évacué depuis très très tôt ce matin. Bonjour Xavier Danet.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le maire d'Arès, qui est une commune limitrophe, hein, toute proche de Lège, Cap Ferré. On est en ligne ce matin avec Sébastien Delavoux. Bonjour à vous. Voilà.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sapeur-pompier. Vous êtes porte-parole du collectif CGT des SDIS, les services de départementaux, de secours. On parlera des moyens, évidemment, et de l'état des forces avec vous. D'abord, la situation sur place, monsieur le maire. Au cœur de la nuit, il y a eu cette alerte. La presqu'île du Cap Ferret doit être évacuée. Cette évacuation est en cours. Comment ça se passe ?
Oui, l'évacuation de la ville de l'Ingé-Cap-Ferré est en cours depuis cette nuit. Je ne saurais dire l'heure puisqu'on a passé la nuit au poste de commandement. Elle s'effectue. Là, je viens de faire une reconnaissance et puisqu'il passe par la départementale 106, ça se fait à peu près dans une fluidité régulière, c'est-à-dire il y a un flux de véhicules qui évacue par la route, par la voie terrestre, la ville de l'Ingé-Cap-Ferré. Et aujourd'hui, on parle d'une évacuation d'une partie de ma commune également qui porte cette D106.
Évacuation par la route, il y a aussi des évacuations par la mer avec des navettes, des bateaux qui viennent chercher les habitants, les vacanciers de cette presqu'île du Cap Ferret.
Alors, je voudrais surtout pas parler à la place de mon collègue de la ville de l'Ingé-Cap-Ferret, mais dans le scénario envisagé, il y a une possibilité, effectivement, d'une évacuation par voie maritime dans un dernier recours, c'est-à-dire quand la piste, la route 106 n'est plus libre. Donc, à ce moment-là, il serait envisagé, effectivement, une évacuation maritime.
Racontez-nous, monsieur le maire, votre nuit. Vous dites que vous avez passé la nuit au PC de sécurité, avec les forces, avec les pompiers. Ce qu'on comprend d'ici, c'est que la ligne que défendaient les pompiers a été traversée par le feu cette nuit et que le feu menace désormais, ou en tout cas a déjà même attaqué les habitations.
Oui, mais une nuit, ça fait deux nuits. En deux nuits, j'ai dormi 2 heures. Hein, donc ce sont des journées denses, des journées émouvantes et des journées stressantes. On passe la nuit aux côtés des forces de l'ordre, aux côtés des sapeurs-pompiers, à les ravitailler, à effectivement envisager ce que l'on peut faire pour protéger. Notre premier rôle en nous, en tant qu'élus, c'est de protéger d'abord les personnes, de protéger les biens au maximum et de nous protéger notre bien extraordinaire qu'est la forêt.
Est-ce que vous savez nous dire combien de maisons ont été touchées par les flammes ce matin ?
Non, je ne saurais vous dire parce que sur ma commune, il n'y en a pas, mais il y en a plus d'une dizaine effectivement qui ont été touchées par les flammes.
Plus d'une dizaine ?
Oui, absolument.
Plus d'une dizaine touchées par les flammes sur la commune de l'Ingé-Cap-Ferret. Est-ce qu'il y a toujours une inquiétude ce matin chez les pompiers alors que le jour s'est levé? J'imagine que les rotations aériennes vont reprendre. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée si on évacue la presqu'île? Est-ce que ça veut dire qu'on pense que le feu va atteindre cette presqu'île?
Alors il y a deux choses effectivement. Il y a la prévention. On peut pas sur cette presqu'île qui a qu'un accès ne pas prévoir, ne pas anticiper. C'est un premier point. C'est aussi pour permettre de rassurer la population. C'est pas parce qu'on évacue que demain ou que tout à l'heure leur maison va brûler. On anticipe parce qu'on peut pas se permettre demain de le faire dans l'urgence. C'est aussi cette fluidité. On a une presqu'île qui est toute en longueur et il faut le faire dans la fluidité, dans le respect des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'il n'y ait pas d'accident et que tout le monde puisse évacuer tranquillement.
Il y a 800 pompiers, en tout cas c'est le dernier chiffre qu'on a, 800 pompiers sur place, mais qui attendent des renforts. Il y a notamment des moyens aériens qui vont arriver de Croatie, du Portugal, c'est la solidarité européenne. Ces renforts, ils sont très attendus par les pompiers que vous côtoyez sur place?
Bien sûr, tous les renforts aériens, tous les renforts terrestres sont les bienvenus. Les soldats du feu combattent maintenant les flammes depuis de nombreuses heures. Il y a la fatigue, il y a la chaleur extrême que l'on connaît sur notre territoire. Et au-delà, confronté aux flammes, eh bien, la fatigue, la chaleur font que l'on est moins performant, que l'on est moins en sécurité également. Donc les renforts sont toujours les bienvenus. Et je tiens à saluer là, à ce moment-là de mes propos, l'extraordinaire professionnalisme et courage de ces femmes et de ces hommes qui combattent le feu avec abnégation. Et voilà, ils y vont. Ils réfléchissent pas, on y va. On a une bataille à mener et cette bataille, c'est pour le bien, cette bataille, c'est pour le vivant. Et donc, on ne peut qu'être ému quand on les voit travailler et quand on en parle.
Ouais, et on pense évidemment tous à ces pompiers qui sont sur le sur le front parce que c'est un combat maison par maison, hein, disent certains pompiers. Et il y a cette solidarité sur place dont vous parliez, puisque vous, maire de l'une des communes qui borde le bassin d'Arcachon, vous dites, on accompagne ces pompiers, on leur donne à manger, on leur donne aussi de quoi se restaurer, de quoi se reposer. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Xavier Danet, maire d'Arest, commune voisine de la commune de Lèves-Cap-Ferré, qui est la plus menacée encore ce matin. On est en ligne donc avec Sébastien Dalvoux également. Rebonjour à vous. Vous êtes donc sapeur-pompier, porte-parole du collectif CGT des SDIS, les services départementaux de secours. Quel est l'état des forces? Qu'est-ce qui vous remonte? Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de vos collègues sur place?
Oui, Sébastien Dalvoux, je corrige la prononciation de mon nom. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont engagés, que ce soit dans les feux de Gironde ou ailleurs, parce que le feu de Die, le feu dans le 73, on a eu un collègue décédé, le feu des Pyrénées-Orientales ne sont pas forcément totalement éteints. Il y a encore des gens, en fait, qui font le noyage, parce que c'est un travail qui est moins impressionnant à l'image, il n'y a pas de flammes, mais c'est un travail astreignant, en fait, qui demande beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'engagement, et qui est très long. Ce qui est énervant, eh bien, c'est d'entendre qu'on n'a pas besoin de moyens, en fait, comme on a entendu les différents membres du gouvernement l'affirmer. Et nous, on peut vous dire qu'en 2021, on a rencontré le ministère de l'Intérieur et on leur a expliqué qu'on avait perdu 1000 camions depuis 2006 dédiés à la lutte contre le feu de forêt, alors que la superficie de la forêt augmente et que les risques, tout le monde en est d'accord, on en est là ce matin pour en parler, ils augmentent. Ils augmentent en intensité, ils augmentent en aire géographique concernée, et la saison commence plus tôt et finit plus tard. Donc, ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient perdu 1000 camions. En 2022, on prend un coup de pied au cul, le président de la République, il annonce qu'on va recommander 1000 camions qui ne sont pas tous des porteurs d'eau, mais les 1000 qu'on a perdus, c'est bien tous des porteurs d'eau. Et puis, il y a la question, en fait, du personnel pour les armées. Parce que, on parle de gens, en fait, qui sont venus de l'extérieur. Mais je peux vous dire que, il y a des gens qui sont arrivés d'Île-de-France hier, qui ont été engagés dès qu'ils sont arrivés sur place après s'être tapé 8 ou 9 heures de camion. Ça montre la faiblesse des moyens. Alors, en tout cas, le manque de moyens pour pouvoir respecter le temps de repos, avoir de la fatigue. En fait, ce que vous
voulez dire, c'est que quand le ministre dit « nous faisons face, la France bashing », en fait, il dit « la France bashing, ça suffit, nous faisons face, on sait gérer les crises », en fait, c'est grâce au dévouement des pompiers qui donnent beaucoup.
Ah ben, ils donnent beaucoup. Là, je reviens à ma colonne d'Île-de-France. La majorité sont sapeurs-pompiers professionnels. Et ils sont partis sous statut sapeur-pompier volontaire parce qu'on les autorise pas à partir sur du temps de travail. Certains ont posé des congés pour venir éteindre les feux à l'autre bout de la France dont on connaît la dangerosité. C'est ça qu'on doit interroger. On a rencontré avec toutes les organisations syndicales le cabinet du Premier ministre le 27 mai pour leur dire que la sécurité civile avait le pantalon sur les chevilles, et à ce moment-là, il n'y avait pas de feu. Parce que notre problème, c'est pas au moment des feux, notre problème, il est déjà au quotidien pour savoir comment on fait partir un fourgon de proximité, un mercredi matin, parce que 80% des agents sont volontaires, et des fois, ils sont pas disponibles. Et il n'y a pas à les incriminer, mais on a à garantir une égalité des citoyens face aux secours d'urgence. Et dans tout un tas de situations, je peux vous en décrire quelques-unes là, j'ai un collègue dans l'Est de la France qui m'a dit, la semaine dernière, on est arrivé le premier engin 1h20 après l'appel. Avant-hier, il y a 4 jours, il y avait dans un département d'Île-de-France parmi les plus importants, il y a eu un feu de récolte, mais comme tous les engins étaient engagés, le premier engin déclenché était à 50 km du feu.
Et on entend c'est votre alerte ce matin, c'est tout ça, j'imagine que pour vous c'est des risques, et on pense évidemment à tous les pompiers qui on le disait, donnent beaucoup, sont mobilisés dans des conditions qui peuvent être extrêmement difficiles. Merci beaucoup, on a bien entendu votre alerte, Sébastien Dalvoux, sapeur-pompier, porte-parole de la CGT des services départementaux d'incendie et de secours. Il est 7h52. Dans un instant, votre rendez-vous d'été RMC dans vos ville. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC à 7h54 avec vous, Lou Garnier, et le groupe The Strokes qui sort un nouvel album.
6 ans après leur dernière collaboration, le groupe de rock new-yorkais The Strokes sort un 7e album. Il s'appelle Reality Awaits. 9 titres au total, dont 2 qu'on connaît depuis quelques mois, comme Going Shopping. I'm on my way to the country. Alors The Strokes, c'est un groupe de 5 artistes. Leur premier titre emblématique, c'est Last Night, sorti en 2001. 25 ans de carrière et ils enchaînent toujours les dates de concerts et de festivals comme Coachella aux États-Unis où ils étaient en avril. En France, on les retrouve le 22 octobre prochain à l'Accor Arena à Paris où ils se produisent évidemment pour notre plus grand plaisir à guichet fermé.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h55 sur RMC. On entendait ce maire de Gironde. Bien justement, on continue de faire le tour de France des maires élus ou réélus au mois de mars, des maires au plus près du terrain. Avec une question ce matin, Pierre Bourgès, faut-il un âge limite pour être maire? Question qui a divisé la petite commune de Nabira, 345 habitants. C'est en Dordogne, qui a élu de justesse en mars dernier Yvette Vigier. Elle a 93 ans et c'est la doyenne des maires de France. Et c'est donc vous, Pierre Bourgès, qui êtes allé la rencontrer pour RMC.
Mais vous êtes en avance.
Un peu.
Rentrez au frais.
Il va falloir que je patiente un peu à l'accueil de la mairie. Yvette Vigier et son adjointe finalisent l'agenda de son été.
Ça commence par le 20, il y a la fête des chasseurs.
Ah oui, le 20, les chasseurs. Parce que là, je ne sais plus où je suis, oui.
Et le 8 août, Bodega.
Et ça s'arrête là, j'espère.
Pour l'instant, ça s'arrête là.
La maire de Nabira nous amène dans son petit bureau d'un pas assuré. Doyenne des maires de France, c'est un titre qui l'amuse.
Il y a un doyen qui m'en veut. Parce qu'il m'a dit, moi, je suis plus ancien que vous, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait là. Mais il a 30 quelques habitants, ça doit pas être trop fatigué.
Avec son regard vif derrière ses grandes lunettes marron, elle le promet, malgré son âge, la maire de Nabira et ses 345 habitants est en pleine forme.
Mais je n'ai aucun problème, qu'est-ce que vous voulez? Je n'y peux rien. C'est pas de ma faute si je dure trop longtemps. Je n'ai pas changé. Le physique un petit peu, ça c'est sûr. Je ne ferai pas physiquement ce que je faisais il y a 10 ans. J'étais partout. Au pastoraux, dans les associations maintenant, bon, il a fallu se calmer.
Yvette Vigier est maire de Nabira depuis 1989. Mais en 2026, elle n'a été élue qu'à 3 petites voix près. C'est évidemment l'âge de la nonagénaire qui a partagé les habitants.
Elle est dynamique. Bon, je dis, il n'y a pas à se plaindre. Hein. Elle a bien fait ses mandats et tout. Il n'y a pas de souci. Hein.
Dans les médias, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça peut le devenir. C'est peut-être un peu trop âgé. Je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir lever le pied.
J'ai rien contre elle, c'est pas méchant, mais je veux dire, à 92 ans ou 13 ans, là, on n'a pas toutes les neurones. Il faut pas dire de conneries quand même, non?
Est-ce qu'on n'est pas trop vieux à 93 ans?
Oh, on est trop vieux déjà à 50 ans. Il y a longtemps que j'entends ça. Mais ça ne me touche pas. Moi, je ne réponds pas. Tout ce qui m'attaque, je ne réponds pas, mais je les regarde. Je me dis, vous avez du temps à perdre.
Madame la maire le concède. Après 37 ans aux affaires, la mairie, c'est un peu tout ce qu'elle a aujourd'hui.
La mairie, c'est ma passion. C'est ma grande famille, en fait. Et je crois que j'ai mis toute mon affection là-dessus. J'ai besoin de travailler, je ne peux pas rester inactive.
Et même si elle ne préfère pas y penser, en coulisses, la succession se prépare. En cas de problème, dit-elle, tout est prêt.
Reportage RMC signé Pierre Bourgès et on continue tous les jours, tous les matins de l'été, ce tour de France des villes. Dans un instant, la météo, le journal de 8h, on retourne bien sûr en Gironde, dans les Landes, avec les reporters RMC, l'évacuation du Cap Ferret en cours depuis très tôt ce matin face à un incendie qui est hors de contrôle et qui menace vraiment les habitations. Situation cauchemardesque, on est en direct dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.